que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Pour assurer une bonne éducation à la jeunesse, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel recommande le recrutement des enseignants qualifiés, mais encore d'écoles primaires et secondaires qui, en principe, doivent respecter les normes, ce qui doivent être viables. Mais voilà, certains établissements scolaires n'ont pas de matériel didactique adéquat. Il n'y a parfois même pas de cours de récréation, et surtout dans plusieurs écoles privées. Et ces écoles ne semblent pas toujours très viables. Alors avec notre invité, Narcisse Fritier, inspecteur général adjoint chargé de l'enseignement privé et agréé à l'EPSP, on va découvrir les normes à respecter avant de créer une école. Rebonjour, inspecteur Narcisse Fritier.
Bonjour.
Voilà, on parle des normes à respecter avant de créer une école. Dites-nous, inspecteur, quelles sont ces normes?
Oui, je remercie d'abord Radio Okapi pour m'avoir associé à cette émission pour parler d'un sujet qui ne m'est pas étranger.
Oui.
Nous devons d'abord savoir, lorsque on veut créer une école, on se réfère d'abord à un document, c'est-à-dire à la loi. Et que dit la loi alors? La loi reste ouverte à toute personne physique ou morale voulant créer une école, qu'elle soit congolaise ou étrangère.
Oui.
Maintenant, cette personne doit présenter des garanties. Il doit présenter des garanties d'ordre civique et juridique.
Auprès de qui?
Ça, je vous donne d'abord ce que dit la loi.
D'accord.
Que dit la loi? La loi dit qu'elle doit présenter, la personne doit présenter des garanties d'ordre juridique et civique. Elle doit aussi présenter des garanties d'ordre financière et matérielle. Ensuite, elle doit présenter des garanties environnementales et enfin des garanties d'encadrement moral, pédagogique, académique ou et administratif. Bon, maintenant, lorsque la personne répond aux garanties d'ordre civique et juridique, qu'est-ce qu'on entend par là? Pour une personne morale, il doit avoir une personnalité, pas une personne morale, c'est-à-dire une association, tout ça, doit avoir une personnalité juridique, n'avoir pas été condamné pour des crimes économiques les 10 ans, des 10 dernières années, et se conformer aux lois de la République. C'est ce que dit la loi. Et disposer d'un personnel qualifié et ayant une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de l'éducation. Ça, c'est pour une personne morale. Pour une personne physique, elle doit être âgée de 30 ans, au moins, et présenter une attestation de bonne vie et mœurs. Se conformer aux lois de la République, jouir de droits civiques, disposer d'un personnel de gestion qualifié ayant une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de l'éducation et n'avoir pas été condamné pour des crimes économiques ou pour toute autre infraction intentionnelle.
Voilà, ça c'est par rapport à la loi.
Oui, Je n'ai pas fini.
Mais tout ça va parce que bon, il faut, oui, oui. Voilà, par rapport à la loi, on comprend déjà que là, il a des dispositions légales par rapport à ça.
Oui.
Mais sur le terrain, comment ça se passe exactement? Une personne peut bien présenter tout cela, mais en réalité, c'est pas sur le terrain. C'est-à-dire que vous avez parlé du personnel qualifié avec 5 ans d'expérience, tu n'auras pas ce personnel. Et pour ce qui est de dispositions financières, des fois on voit des écoles et qui s'apparentent à des chantiers. Alors sur le terrain, et comment ça se passe?
Bon, il y a ici lieu de catégoriser les écoles. Oui. Il y a ici lieu de catégoriser les écoles. Il y a des écoles qui suivent les normes. Les écoles qui suivent les normes, mais leur nombre est minime. Bon, il y en a qui suivent plus ou moins. Alors, les normes. Et il y en a qui ne suivent pas les normes.
Alors, en réalité, quelles sont ces normes? Parlons par exemple pour ce qui est du bâtiment, ce qui est de l'environnement, quelles sont ces normes?
Pour ce qui est du bâtiment, il doit disposer des bâtiments par rapport aux options qu'il organise.
Oui.
Et les bâtiments doivent être construits selon les normes, c'est-à-dire longueur pour une salle de 7 à 8, et largeur de 5 à 6. Ce sont de sa déclasse. Et il faut alors prévoir aussi une bibliothèque.
Ah, absolument, oui.
Il faut prévoir une bibliothèque. Les toilettes, les laboratoires et des ateliers. C'est si vous organisez de son technique.
Et la cour de récréation, il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas de cour de récréation. Les élèves, lors de la récréation, on le retrouve dehors.
Mais ça, ce n'est pas selon les normes. Parce que il faut qu'il y ait une école, il faut que les enfants étudient et qu'ils aient le temps de se récréer. Et ils ne doivent pas aller se récréer dans la rue.
C'est-à-dire avoir de bâtiments. Dit quoi si vous avez il y a dans cette école il y a l'enseignement professionnel et technique, avoir des ateliers et avoir également du personnel qualifié, donc ça fait partie des normes, et avoir une cour de récréation.
Oui,
et comme vous avez dit, malheureusement c'est pas toujours respecté, mais ça on fait avec quand même au niveau du ministère, hein, de l'EPSP.
Oui, mais au niveau du ministère, je crois que il y a une formule que nous appelons le C6B.
C6B, oui, ça veut ce qu'il veut dire.
C6B, c'est une enquête de viabilité.
Oui.
Avant que le ministre n'agrée une école, il faut que toute la demande soit accompagnée de l'enquête de viabilité.
Oui.
Et dans cette enquête de viabilité, on retrouve un peu de tout. Il y a le promoteur, qu'on doit connaître. Il y a aussi la personne qui va utiliser pour diriger l'école, qui doit utiliser. Et il y a l'infrastructure qu'il faut analyser. Il y a l'implantation. On n'implante pas l'école n'importe où.
Oui. Ah, ça, c'est important également.
Oui.
Il faut implanter l'école, oui.
Oui. Il y en a qui pensent que je vais faire une concurrence, mais une concurrence déloyale, parce que Ce promoteur-là fait un peu d'argent, ça ne se comprend pas. Il fait l'argent, mais il ne fait pas tout.
C'est plus un commerçant que
Un commerçant.
Voilà.
Oui.
Voilà. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. C'est une émission interactive. Nous parlons donc des questions et des normes à respecter avant de créer une école. C'est avec notre invité Narcisse Fritti. Inspecteur général adjoint chargé de l'enseignement privé agréé à l'EPSP. Nous avons déjà 3 éditeurs en ligne. Watson Mukena qui appelle de Kolwezi, Modeste Mwamba qui est à Kananga et Radi Amadi qui est à Kindu. Vous voulez également intervenir par rapport à ces sujets. Le numéro d'appel, les 081-890-63-94.
C'est parce que Radio Kapi Uni le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiokapi.net.
Watson Mukina, vous êtes à Kolwezi dans le Katanga, bonjour.
Oui, bonjour mon frère.
On vous écoute Watson, quelle est votre question?
Oui, j'ai 3 petites questions.
Allez-y.
La première question, celle de savoir, à Colosi, il y a des écoles qui se sont ouvertes. Leur première année, ils ont commencé déjà avec la classe de la cinquième année secondaire. Est-ce que c'est autorisé par la loi congolaise? Normalement, ce que je sache, quand une école commence, on doit commencer par premier, primaire, deuxième, troisième, quatrième. Les élèves qui feront la sixième vont entrer en première jusqu'à atteindre la sixième. Donc, à Colosi, nous avons retrouvé des écoles qui ont leur première année de prestation, ils commencent directement avec les élèves de la cinquième. La deuxième question, c'est de savoir, toujours ici à Colosi, il y a des écoles qui ont commencé dans des maisons d'habitation. Est-ce que ça c'est permis ou reconnu par la loi? Et la troisième question, par exemple, ici à Colosi, la télé qui a été brûlée dernièrement par des élèves qui ont échoué, cette Athénée contenait plus de 5 écoles. Est-ce que c'est normal? Il y avait plus de 5 écoles. Est-ce que c'est normal ça? C'était ça mes questions.
Merci à Watson Mukina. Merci d'avoir appelé depuis Colosi dans le Katanga. Kananga, nous allons retrouver Modeste Mwamba. Bonjour Modeste.
Bonjour bien-aimé. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la radio Okapi qui nous écoutent en ce moment.
On vous écoute Modeste.
Monsieur Martin, si vous me permettez un peu de faire un petit bilan pour ce qui se passe ici à Kana.
Ah, ne prenez soyez pas très long, Modeste, parce qu'il y a d'autres auditeurs en ligne. Hein, donc il y a moyen de faire ces petits bilans, mais en étant concis. Allez-y.
S'il vous plaît, à ce qui concerne cette thématique, c'est de la mer à boire, monsieur Marcel Ngomobala. Vous savez, actuellement, si on parle de la baisse du niveau de l'enseignement, c'est parce que on ne sait pas comment respecter toutes ces normes que monsieur l'invité vient de nous évoquer. Aujourd'hui, à Kananga, la création des écoles est devenue un business. Il y a beaucoup de préfets qui sont devenus des businessmen. Quelqu'un qui n'a pas eu du boulot, il va chercher s'attraper un arrêté pour former une école. Vous trouverez par exemple, nous à Lukonga ici, nous avons beaucoup de surfaces qui peuvent permettre de construire des écoles. Mais si vous pouvez monter au niveau de Ndecha, qui est la commune, une deuxième commune pour la ville de Kanan, M. Martel, vous allez trouver que ce sont des porcheries qui servent des salles de classe, M. Martel. Je vous dis, c'est très déplorable, surtout les
Alors, Modeste.
Monsieur Martel.
Voilà, vous avez parlé des constats que vous avez faits. Et alors, c'est quoi la question maintenant?
Oui, la première des questions, c'est celle de savoir. À qui est-ce qu'on peut incomber cette faute-là? Parce que l'invité vient de parler. Si aujourd'hui on parle de la baisse du niveau d'enseignement, c'est parce que plusieurs responsabilités sont partagées. Maintenant, qui est la principale cible qu'on peut aujourd'hui incriminer d'être à la base de la baisse du niveau de l'enseignement en ce qui concerne la matière de viabilité des écoles? Ça, c'est la première question. La deuxième question, aujourd'hui, est-ce qu'il n'existe pas de mesures sanctionnaires pour tous ces enseignants, tous ces préfets qui s'attrapent des arrêtés pour aller mettre les enfants d'autrui dans des porcheries? Est-ce qu'ils, juste à la rentrée des classes, les enfants se mettent à même les autres pour étudier, ce qui va vraiment les prédisposer à l'inadaptation scolaire? Voilà un peu les deux questions. Que l'invité puisse nous dire la personne la plus incriminée dans cette affaire et aussi... À qui peut-on accorder cette faute? Quelles sont les mesures pour sanctionner les gens qui s'attrapent des arrêtés sans toutefois remplir toutes ces conditions? Je vous remercie.
Merci Modeste Mwamba d'avoir appelé du Kananga. Iradi Amadi, vous êtes à Kindoudan, le Maniema. Bonjour Iradi.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les invités de la radio Capi, ou les auditeurs.
On vous écoute Iradi.
Oui, merci beaucoup. Selon les normes de l'éducation, est-ce qu'il est permis à quelqu'un qui vient d'obtenir le diplôme d'État de commencer à enseigner l'école secondaire? Puisque si chez nous, j'ai vu quelque part quelqu'un qui a obtenu son diplôme cette année, et vous allez voir l'année prochaine, il commence à donner cours à l'école secondaire d'État. Mais que pense la loi éducative concernant les écoles incroyable, puisque on constate aussi une école vient d'être créée, ça ne remplit même pas l'objectif demandé par soit le ministère de l'enseignement. Vous allez voir dans une classe 2-4 élèves, et arriver voir même 3e-4e point, les enseignants abandonnent les élèves. Est-ce que les parents de ces élèves peuvent suivre de tel enseignant ou de tel directeur de l'école au niveau de la justice? Merci beaucoup, c'était ça. les défaillances.
Merci Radhi Madi. Vous avez appelé de Kindou dans l'Humanima. Narcisse Offrit, inspecteur général adjoint, chargé d'enseignement privé agréé à l'EPSP. Vous êtes notre invité. Voilà la première vague de questions. Il y a Watson qui a appelé de Colouisi, qui a parlé d'une école qui vient à peine d'ouvrir pour la première année, qui va jusqu'à cinquième année secondaire. Est-ce que c'est faisable ça?
Bon, je crois que les écoles doivent préparer les élèves à suivre normalement l'enseignement. Quand on commence par la cinquième, on va jusqu'en cinquième. D'où viennent ces élèves? Ça, c'est la grande question. Et puisque les élèves n'ont pas été préparés pour accéder en classe de cinquième, donc pour moi, je trouve que c'est... Je ne dis pas que c'est de l'aventure, mais c'est quelque chose qui ressemble à cela.
Le ministère doit veiller à tout cela, mais il a également évoqué des écoles qui sont dans des maisons d'habitation. Il a parlé d'un atelier pour cinq écoles. Oui. Qu'est-ce que vous commentez par rapport à tout cela?
Bon, une école qui fonctionne dans une maison d'habitation, ça ne peut pas se concevoir. Parce que la maison a été conçue pour habiter. Et... On voit mal comment les élèves peuvent se retrouver dans une chambre en train d'étudier. Ça ne va pas. Donc là, ils sont pas conformes à la norme.
Et là, ça rejoint la préoccupation de Modeste qui a finalement dit alors à qui incombe la faute? Pourquoi toutes ces écoles non viables, mais ça fonctionne. À qui la faute? Et puis pourquoi il n'y a pas de sanction?
Oui, à qui incombe la faute? C'est la personne qui est le promoteur ou qui est la promotrice.
Mais qui a reçu l'agrément.
Oui, qui a reçu. Mais quel agrément? Parce que nous recevons sur le terrain des gens qui prennent l'arrêté d'une école et ils photocopient et ils passent pour l'arrêté de l'école. Alors, cette école-là n'a pas été réellement agréée.
Et quand vous remarquez tout cela, est-ce qu'on sanctionne? Parce c'est la question de Modeste, moi, qui demande quelles sont les sanctions par rapport à toutes ces écoles dont vous êtes, dont vous savez qu'elles fonctionnent pas dans les normes. Est-ce que vous sanctionnez?
Oui, les écoles qui fonctionnent sans normes, on doit en principe les fermer. On les ferme.
Et parce que dernièrement, on a suivi en Itourie, la vie des écoles qui vont pas fonctionner pour l'année scolaire à 2014-2015, mais c'est rare quand même. Hein, et puis des fois, on peut prendre des mesures, mais on va voir ces écoles ouvrir leurs portes à la rentrée scolaire.
Pour ces écoles de l'Itourie qui se sont vues fermées par l'autorité provinciale, je crois que ce n'est que normal. Parce qu'une école ne peut pas être comme une porcherie ici.
Oui.
Hein? Donc, on doit respecter les normes, et quand on a respecté les normes, on fait fonctionner l'école. Quand on n'a pas respecté les normes, autant ne pas fermer, ne pas ouvrir cette école.
Et Radhi, qui voulait savoir, est-ce qu'un diplômé d'État, il y a des diplômés d'État qui commencent déjà à enseigner, même à l'école secondaire, qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, en principe, c'est un cas anormal, parce que enseigner au secondaire revient au gradué, au licencié, docteur, tout ça. Donc, un D6 qui enseigne au secondaire, c'est peut-être parce manque de personnel. Et alors, on recourt au D6. Mais en principe, on ne peut pas recevoir le D6 pour l'enseignement en secondaire.
On va prendre notre auditeur en ligne, Jérémy Do, qui nous appelle de Bandundovi, dans la province du Bandundu. Jérémy Do, bonjour.
Oui, bonjour Marcel, bonjour à l'invité. J'ai une seule question à poser à l'invité. Bon, c'est ça, j'ai fait un constat là.
Oui.
Si à Bandundu, les écoles naissent comme des champignons.
Oui.
Je ne sais pas. Eh, mais ce type qui chante, il vient avec son arrêté là, signé si c'est par les ministres ou si c'est par qui, il ouvre son école. Bon, jusqu'à présent, l'école fait 3 à 4. Les élèves présents, ils ne trouvent pas même des résultats. Je ne sais pas. C'est le constat où j'ai fait. Est-ce que cet arrêté était une bonne arrêté où les PC ne connaissent pas ou qui ce soit là? Je ne sais pas. C'est pour cela que je demande à l'invité s'il peut me donner des explications.
Voilà, merci à Chéri Mido d'avoir appelé de Bandundu-Ville. Nous avons une première dame, je pense bien, je vois là, c'est Valérie Ndala, j'espère que c'est... Je sais pas si c'est une dame, voilà. Valérie Ndala, vous appelez de Colouisi. Bonjour Valérie.
Bonjour Monsieur Desjardins.
Ah, c'est plutôt Monsieur. Alors Valérie, on vous écoute, quelle est votre question?
D'accord. Par rapport à ce que l'invité vient de donner comme toi qui porte la création de, d'une institution scolaire ou quoi,
oui.
Je n'y ai pas entendu une réalité qui garantit moi la présence d'un psychologue scolaire. Parce que c'est vrai que un psychologue scolaire a un rôle majeur à jouer dans la création d'une institution scolaire. Il connaît quand, pourquoi et les comment coordonner les choses pour ce qui est de l'instruction, de l'éducation. Et en dehors de ça, nous avons remarqué chez Acolosi, même quand l'Athénée a été brûlée, je pense que les élèves n'ont pas eu moins cet encadrement psychologique ou quoi. Donc l'intervention d'un psychologue scolaire a plus de l'importance dans la création d'une institution où il y a la présence d'un être humain. Donc, et en dehors de ça, j'ai encouragé notre invité qui a dit il n'est pas rare ou ce n'est pas une faute pour un défi d'enseigner, c'est normal. Et je voulais aussi demander à l'enseignant, à l'invité plutôt, est-ce qu'il s'est permis à un enseignant de 18 ans, celui qui vient de terminer, et je pense un cycle de pédagogie, d'enseigner directement dans une institution où il y a des gens qui ont 25 ans, 28 ans, au cas où il a 18 ans. Quand même, il le matire psychologiquement, mais bon, physique, c'est quelqu'un de... C'est considéré comme un enfant parce que son physique ne témoigne pas qu'il est mature. Et c'est la question dont je pose à l'invité. Merci.
Merci Valérie Ndala d'avoir appelé de Kolwezi dans le Katanga. On va accorder la parole à Adriana Mouyeti qui appelle de Lubumbashi dans le Katanga, également à Aimé Minako qui est ici au Rapport Oriental. Il s'agit cette fois-ci bel et bien de deux dames. Adriana Mouyeti, bonjour.
Bonjour, monsieur Marcel Ngombo Mbala. Bonjour aussi à notre inspecteur Narcisse.
Bonjour.
On vous écoute.
Selon les entiers, auparavant, c'était rare de voir dans une avenue des écoles. De nos jours, c'est le cas, comme Jerry venait de le dire. Monsieur Narcisse, je vous ai bien suivi dans l'introduction. Par rapport à la loi, vous avez dit que ça va. Sur les terrains, j'aimerais aussi savoir si ça va. Et pourquoi ces écoles qui ne suivent pas les normes, même pas plus ou moins, comment ces écoles-là arrivent-elles à fonctionner? Et ma dernière question, monsieur Narcisse, j'aimerais savoir, vous, en tant qu'inspecteur et toute votre équipe, vous avez le temps de descendre sur le terrain de temps à autre? Merci, monsieur Marcel.
Merci Adriana Mouyeti depuis le Lubumbashi dans le Katanga, ici Gros, en province orientale, Aimé Minako, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour également à l'invité.
On vous écoute Aimé.
Oui, ici à Isiro, vraiment le quota est en mer concernant la placement des écoles. Parce qu'il y a des personnes qui créent des écoles, je ne sais pas, par profit de l'argent ou comment, ils n'ont pas un fixe. Chaque année, ils changent l'adresse. Cette année, ils sont ici. Cette année, ils sont là. Ils font n'importe quel bâtiment. C'est pourquoi j'aimerais te savoir quel emplacement doit avoir une école. C'est ça ma première question. La deuxième est de savoir, dans les écoles secondaires pour nouvellement créer, faut-il avoir combien de nombres d'étudiants?
Voilà. Merci, Aimé Minaku, d'avoir appelé Diziro en province orientale. On retourne à vous, à Narcisse Fritti, dont vous êtes un autre invité, vous êtes inspecteur général adjoint, chargé d'enseignement privé agréé à l'EPSP. On parle de normes à respecter avant de créer une école. On va commencer avec cette question de Valérie Ndala qui a dit parmi les personnels dont doit disposer une école, il a dit vous n'avez pas parlé d'un psychologue scolaire alors que c'est important d'orienter les élèves, et puis il a également posé la question de savoir est-ce que quelqu'un qui vient d'avoir un diplôme en pédagogie générale, est-ce que s'il enseigne, ça peut vraiment poser problème puisqu'il a suivi, il a fait les humanités de pédagogie générale. Inspecteur Narcisse.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que la nomenclature des gens à engager dans une école, elle est connue. Et le chef d'établissement ou le coordinateur agissent par rapport à cette norme-là. Il y a un personnel cadre. Donc, pour le moment, le psychologue scolaire n'est pas encore repris d'une façon générale. Et
Adrienne, avant de lever Jérémy Do qui a appelé
le D6.
Oui.
Bon, c'est dommage, enfin, j'ai déjà répondu à cette question.
Oui.
En principe, au secondaire, il ne peut pas enseigner. Mais au primaire, il peut enseigner. Parce que ces gens qui ont 28 ans, 29 ans, 30 ans d'expérience, ils vont partir en retraite. Et quand ils partiront, ils seront obligés d'être remplacés par leurs jeunes frères, leurs jeunes sœurs. Donc, il n'y a pas de mal au primaire. Et au secondaire, bon, j'ai dit déjà que ce n'est pas ça la norme. Mais pour le besoin de la cause, on peut toujours s'en référer.
Alors, Adrienne Mouyetti voulait savoir pourquoi ça se passe comme ça. Il y a beaucoup d'écoles qui ne sont pas viables, mais qui fonctionnent alors que vous avez parlé de conditions à remplir pour fonctionner. Est-ce que vous faites des descentes sur le terrain pour vérifier si tout se passe bien par rapport à ce que recommande la loi?
Oui, nous agissons par le canal de notre inspecteur principal provincial,
oui,
qui a toute une équipe. Des inspecteurs chefs de pôle et des inspecteurs itinérants. Ce sont ceux-là qui doivent nous renseigner sur tout ce qui concerne
et qui donnent des bons rapports, parce que si les rapports étaient bons, je pense que beaucoup d'écoles pourront être fermées.
Bon, ils sont rares, en tout cas, les inspecteurs qui fournissent de mauvais rapports.
Oui.
Ils sont rares. Mais si cela arrivait, bah, on ne ferait que regretter.
Voilà, il y avait également cette question de Aimé Minako qui voulait savoir toutes ces écoles qui changent d'adresse. Il y a des écoles, cette année, on les retrouve à cette adresse-ci. L'année prochaine, peut-être qu'ils étaient locataires, on les a chassés dès là, ils changent d'adresse. Et quel est votre commentaire par rapport à cela?
Bon, commentaire par rapport à cela, quand on change d'adresse, on doit recevoir un autre arrêté. Parce que le ministère doit toujours situer l'école là où elle fonctionne. Comment on peut prendre une école aujourd'hui à Ngaba, le lendemain à Kisenso, tout ça, sans que le ministère en soit informé? Donc ça, ils sont en dehors de la norme.
Voilà, donc il est important pour nous de rappeler les normes, inspecteur Narcisse Fruity. C'est vrai qu'il y a peut-être des gens maintenant qui sont intéressés, qui sont peut-être en train de réunir les moyens pour ouvrir une école. Ça serait peut-être le lieu de rappeler, hein, parce qu'il faut vraiment des écoles viables pour un enseignement de qualité. Donc on va rappeler les normes. Vous avez dit, il faut d'abord avoir des bâtiments adéquats. Mmh. Et pour ce qui est, par exemple, de l'enseignement technique et professionnel, il faut absolument avoir des ateliers, parce que ce que ces élèves vont apprendre, il faut que ça soit pratiqué quelque part, donc il faut qu'il y ait des ateliers. Oui. Vous avez également parlé de...
Des locaux, des salles de classe.
Ah, des salles de classe et puis d'une cour
de
récréation. C'est-à-dire faire en sorte que l'environnement soit vraiment de manière à permettre aux élèves de bien apprendre et puis de recevoir un enseignement de qualité. Peut-être que vous avez un commentaire final avant qu'on puisse conclure cette émission.
Je crois que c'est tout ce que vous avez repris, mais il y a tout un arsenal de documents qu'il faut réunir pour qu'un promoteur ou une promotrice,
oui,
puisse accéder à ouvrir une école. Il y a d'abord, dans la demande qu'il adresse au ministre, il faut la dénomination de l'établissement, les objets et le but poursuivi par l'enseignement.
Oui.
La désignation de l'endroit où doit fonctionner l'école.
Ah, l'implantation de l'école,
l'implantation,
ça c'est important, oui, pas n'importe où.
Oui. Oui. La description succincte de l'école, là nous avons parlé. Une note sur le promoteur et la promotrice qui doit avoir une expérience d'au moins 10 ans. Or, il y a des gens qui se font substituer pour quand on demande adresse, mais quand on va sur place, on trouve que ce n'est pas ça.
Et une question qui me revient à l'esprit, qui a été posée par Aimé Minako, les écoles qui sont construites par l'État dans le projet de 1000 écoles, et si vous savez quel standard voulait savoir Aimé Minako?
Bon, en principe, le maxima,
oui,
le minima, c'est pas moins de 20. Pas moins de 20. Et au secondaire, on peut aller à 15 Et au primaire, pas plus de pas moins de 20. Et le maximum, c'est 50 au secondaire, comme au primaire.
Merci beaucoup, inspecteur Narcisse Fritti. Vous êtes inspecteur général adjoint, chargé de l'enseignement privé agréé à l'EPSP. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler des normes à respecter avant de créer une école. Merci, on vous retrouve prochainement.
Oui, alors je voudrais ajouter le petit montant que le promoteur ou la promotrice doit verser.
Oui.
Parce qu'il trouve que c'est une contrainte, mais c'est une contrainte utile. Parce que quand il va commencer l'école, il n'aura pas suffisamment d'argent pour payer la crèche, pour payer même le personnel. Donc, il faut que la personne soit mature et qu'elle fasse des choses qui sont acceptables par la société. Et les parents doivent aussi, maintenant, tenir compte.
Les montants, c'est des combien?
Pardon?
Les montants, c'est... Ça dépend des écoles.
Oui,
d'accord, c'est bon. Donc, c'est important de payer ces montants.
Oui.
Voilà. Merci beaucoup, inspecteur Narcisse Fritti. Nous rappelons que vous êtes inspecteur général adjoint chargé de l'enseignement privé et agréé à l'EPSP. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.